Donc, je vais vous parler de Luchador, qui est un jeu paru chez Pulp Fever Edition. Édition? Bah, édition, n'importe quoi. Chez Pulp Fever Edition. Pour un prix de 35,90 €. Donc, c'est un jeu en A5 qui fait 326 pages, avec un cahier couleur de 8 pages au centre. C'est un jeu de Julien Elbrock, Romain Ducier et Willy Favre, qui sont là aussi trois individus bien connus de nos services. Ce jeu.
Alors, juste Willy
Oui, quoi?
Favre, c'est pas lui qui avait commencé avec Alienoid, non? Attends, je confonds.
Hein?
Il a commencé par quoi? C'est pas son premier jeu à Willy
Non,
Favre.
non, mais son premier, c'est celui dont j'ai le poster qui est là, c'est Brain Soda.
D'accord,
Je
ok.
crois que c'est celui-là le premier qu'il a fait.
Avec moi, je sais pas pourquoi je pensais que c'était le jeu là où on pouvait jouer des aliens.
Alienoid, c'est un jeu de croque, ça, non?
Non, 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 ça je suis sûr que non.
Enfin, il n'est pas paru chez Syros il y a super longtemps.
D'accord.
C'est un jeu
Moi,
très très
je me
vieux.
tais, alors je me tais, je dis des bêtises.
Ce jeu, Luchador.
Et Romain Ducier, lui, c'est un spécialiste
Oh
de
putain.
Legends of the Five Rings,
Tu
non?
vas la fermer, ta
Bon, vas-y, continue.
Je sais plus ce que je voulais dire. Non, non, en plus, même pas, mais non, c'est sur Chine qu'il a travaillé. Pas F5R, enfin, je crois pas. Enfin, quoique. Bref, c'est un jeu dans lequel on incarne donc des luchadors qui sont des lutteurs de lucha libre dans une ambiance mexicano-cubano-brésiliano-caraïbienne. Oui?
Oui, je lève le doigt parce que je ne veux pas me faire engueuler. Est-ce que entre lucha libre et cuba libre, il y a un rapport?
Ouais, le mot libre.
D'accord.
Ok. Les luchadors sont dans cet univers des lutteurs de lucha libre qui ont des pouvoirs mystiques grâce aux masques qu'ils portent. Donc c'est-à-dire les masques que portent les lutteurs de lucha libre.
Est-ce que
Oui, quoi.
l'inspiration, c'est le dessin animé Masque?
Oh putain.
C'est un jeu français ou pas?
Oui.
Bon, est-ce que
Mais
Masque a été
masque, c'est
diffusé en
pas
France?
français.
Oui, mais c'était diffusé en France quand on était petit.
Ouais, mais ça n'a vraiment aucun rapport, mais même de très très loin, quoi.
Ah si, il y a des masques.
Ah, putain. Bon.
Bon, je te laisse continuer, mais
Ouais,
j'ai quand même un soupçon.
oui, vaut mieux, ouais. Donc, ces luchadors vivent dans le triangle des Bermudes, à Los Murcielagos, qui est un archipel de plusieurs dizaines d'îles, au centre duquel se trouve l'Espiral Grande, c'est-à-dire c'est une sorte de siphon qui est au milieu de cet archipel, en fait, un espèce de tourbillon qui va jusqu'au fond des abysses et qui en même temps est multidimensionnel. Et ce siphon, ça engloutit les navires qui sont aux alentours, ça déroute les avions, etc. Donc là, tous les mythes autour du triangle des Bermudes. Et en même temps, ces abysses relâchent des hordes de créatures complètement bizarres, qui peuvent être des animaux géants, des aliens, des zombies, des vampires, des robots, enfin, toutes sortes de méchants, de toutes les sortes et de toutes les tailles. Toi, tu vas encore dire une
Non,
connerie.
mais ça me fait penser à Rift. Parce que des Rifts, il y a n'importe quoi et tout et n'importe quoi qui sort pour foutre le bordel sur la Terre. C'est un peu
D'accord.
ça, dans
Ah
l'idée.
bah pour une fois oui,
En plus, Atlantis dans Rift, c'est au milieu de l'Atlantique. Et tu me dis que c'est dans le triangle des Bermudes, qui est donc à l'est des États-Unis.
Oui,
C'est la mer des Sargasses?
oui, c'est un archipel qui fait vraiment qui est un mélange culturel donc, comme je le disais entre le Mexique, Cuba, c'est-à-dire que c'est un endroit où tu as eu plusieurs périodes comment on va dire, de colonisation, en quelque sorte. Tu as à la base, tu as des Indiens type amérindiens, genre Maya et autres. Puis tu as des Espagnols qui arrivent et donc qui importent leur architecture. Toutes ces sortes de choses, le christianisme. Et puis après, tu as les voitures américaines, comme à Cuba. Et puis après, tu as eu un dictateur. Donc voilà, ça ajoute encore des éléments avec, tu sais, des statues géantes de 10 mètres du
À la
libérateur.
Lost,
Non, 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 pas.
à Marja,
Oui, à la Marja, ouais, plutôt. C'est plutôt genre à la Marja.
d'accord.
Donc, qui est la ville, île-État, décrite dans le jeu Conspiration, Over the Edge en version américaine. comme je le disais, il y a donc cet archipel avec cette espèce de siphon qui va au fond des mers, qui relâche plein de créatures bizarres et qui relâche également les luchadors eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on retrouve de temps en temps sur une plage inconscient un individu qui porte un masque neutre, blanc quoi, et qui va se réveiller et qui est investi de pouvoirs qui lui permettent de lutter contre les fameuses créatures.
Tu dis que le masque est blanc, donc ils n'ont pas de personnalité les...
Quand tu crées ton personnage, tu as un masque qui est très peu décoré ou alors mal décoré. Et en fait, l'apparence de ton masque reflète aussi finalement ton expérience. Parce que les dessins vont changer au fur et à mesure, selon la façon dont ton personnage évolue, selon sa comment dire. Je parlerai de ça tout à l'heure. Bref. Toujours au niveau de l'environnement, l'archipel est constitué de trois îles principales. Donc c'est sur l'une d'entre elles que se trouve Puerto Dragon, qui est la capitale, qui est une ville qui recouvre toute l'île en question et qui est un peu le cœur économique, politique et tout ça des environs. Donc ces îles multiples, ça permet de varier évidemment complètement les environnements, avec certaines îles qui sont très peu peuplées, ou alors des îles qui sont une mégapole comme Puerto Dragon. Y a énormément de descriptions de lieux, de choses à voir, et notamment de tout ce qui concerne la lucha libre elle-même. En fait, tout tourne autour de la lucha libre, pour être précis. C'est à la fois un sport, c'est le foyer culturel de l'archipel, puisque chacun se reconnaît un petit peu là-dedans.
Est-ce que dans le cadre du jeu, c'est connu en dehors de l'archipel ?
Bah oui, c'est-à-dire c'est connu comme dans la vraie réalité, c'est-à-dire c'est juste un espèce de sport un peu chiqué comme du catch.
Ah, ça existe vraiment, le lucha libre ?
Ouais, tout à fait, oui.
C'est le catch mexicain, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
D'accord, ok. D'accord.
Voilà. C'est donc la raison de vivre en gros des luchadors avec un grand L, qui sont les personnages incarnés par les joueurs.
Donc c'est des extraterrestres, t'es d'accord?
Non, c'est pas, non.
Tu dis qu'ils ont échoué venant de nulle part par le tourbillon.
Ouais, mais vu que le tourbillon il relâche n'importe quoi, ça peut être aussi des humains.
Mmh.
Donc ils servent de paravent, de protection contre les invasions de créatures bizarres. Ce qui est marrant finalement dans ce jeu, c'est que les luchadors sont complètement inclus dans le paradigme du monde, c'est-à-dire que il est complètement normal de voir passer dans la rue un luchador avec son masque, oui. Et tout, il fait partie du paysage. Il est là. Éventuellement, il y aura des gens qui vont lui demander un autographe, oui, s'il est connu, mais
ou de résoudre un petit problème de voisinage, peut-être. Non, c'est des, oui, super-héros ou
Ouais, c'est des espèces de super-héros, mais avec un côté beaucoup plus abordable. Finalement, ils font des enquêtes. Ils ont une vie.
Ils sont payés en tequila.
Ils ont une. Je sais pas.
C'est quoi leur motivation ?
L'honneur, tout ça. Non, c'est, en fait, ça dépend des types de personnages. C'est un truc qu'on voit après à la création. Donc, en fait, moi, ça me fait penser un petit peu finalement à certains dessins animés, c'est américain, avec des courbes un petit peu, des dessins un peu carrés, où tu peux avoir effectivement comme ça des personnages qui n'ont rien à voir avec leur environnement et qui finalement ils sont pleinement intégrés parce que c'est comme ça. Donc c'est-à-dire soit tu y adhères, soit tu y adhères pas, mais à partir du moment où tu prêtes où tu fais confiance à l'univers, on va dire, tu peux vraiment rentrer dedans et... Donc dans ce bouquin, il y a notamment... Oui, quoi ?
Tu choisis un petit peu ce que tu vas être ou comme
ben,
type de...
Oui.
D'accord.
Oui, mais en fait, j'allais bon, y venir si tu veux.
Tu mâches, vas-y, change.
Donc il y a donc le plus gros du bouquin, c'est la description des endroits où tu, enfin des descriptions de lieux, de choses comme ça, de personnages connus, de PNJ, de machin, des luchadors célèbres, tu sais, qui même certains font des lignées avec
Ah, mais ça perdure depuis des décennies, des siècles?
C'est. Oui, ça a l'air d'être. Oui, c'est assez ancien en fait. Parce que. Alors, je me souviens plus exactement des détails, mais il me semble qu'en fait, tu as des espèces de masques amérindiens qui sont en fait des versions très anciennes des luchadors. Et,
D'accord, oui,
voilà, qui sont
je
liées
crois que
au
je vois.
contexte, voilà, tout ça. Donc, évidemment, il y a une grosse partie qui est basée sur les matchs de Lucha Libre. Puisque finalement, les personnages se battent contre les créatures des ténèbres et autres, avec des prises, des trucs de lucha libre.
Ça fait un peu Chevalier du Zodiaque dans l'esprit.
Ouais, pourquoi pas.
Avec des types en armure bizarre,
Oui, oh regarde, il va sortir la
avec
fameuse
les
manœuvre.
paris sur qui va gagner, et puis effectivement des combats un peu avec des coups spéciaux
Oui.
propres à chacun.
Exactement, exactement. Il y
D'accord.
a le système de combat est vraiment très développé et te permet justement de mettre ta touche personnelle sur quand tu combats et par exemple tu peux vaincre un ennemi de telle façon qu'on saura que c'est toi, quoi.
C'est pas du narrativisme hein, pour le coup. C'est un bon gros
Non, non.
bouquin avec plein de règles pour.
Non, c'est du ludo-simulationnisme, je dirais.
D'accord.
Donc, je vais détailler un petit peu tout ce qui est combat. Donc, tout d'abord, les matchs, ils se font en trois rounds, appelés Kaïda. Et on gagne soit en faisant poser les épaules de l'adversaire sur le sol pendant 3 secondes. Donc, tu sais, avec l'arbitre qui décompte.
Oui.
D'ailleurs, dans les combats, l'arbitre, c'est le MJ.
D'accord. Ah, et ça peut être un combat entre joueurs?
Pourquoi pas? Ouais.
Mais, bon, ok, c'est pas l'optique, visiblement.
Ben, je veux dire, il n'y a rien qui l'empêche, quoi.
D'accord.
Donc, on peut gagner soit parce que l'adversaire a mis les épaules par terre pendant un certain nombre de secondes, soit parce que l'adversaire a abandonné, soit parce que l'adversaire a passé plus de 30 secondes en dehors du ring, soit parce que l'adversaire est disqualifié, ou soit parce qu'on l'a mis KO. En plus de ça, il y a les matchs à stipulation. Donc, ce sont des matchs à condition, ayant des conditions, tu vois.
D'accord. Le premier
Et.
qui tombe à terre a perdu ou ce genre de choses?
Non, non, ça peut. Non, en fait, ça met des. Ça donne un enjeu au match, dans le sens où tu peux parier ta ceinture de champion, ta chevelure,
D'accord. Des gages.
ou même ton masque. Et
Dans le
pour un
lac
lutteur.
avec les fers au pied.
Non, 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 pas du tout. Non, c'est un truc vraiment, vraiment sérieux où tu es susceptible de perdre ton titre, genre de champion, de choses comme ça. Soit tu perds ta voilà il disait oui ta chevelure et donc en fait c'est pour l'humiliation là de l'adversaire ou le masque et là c'est très grave pour les luchadors puisque si on ne peut pas leur retirer leur masque de super-héros finalement ils sont
De
on
leur
va
chair?
dire indestructibles ou tout ça
D'accord,
on ne peut
ouais.
pas leur enlever de force.
Comme un visage, finalement, c'est plus un masque.
Oui, puisque ça leur apporte plein de capacités en
D'accord.
plus, en fait.
C'est comme un nouveau visage qui prend la place de leur visage antérieur qui ne sert plus à rien. Est-ce que à un moment donné, ils enlèvent leur masque pour quand ils sont en famille, par exemple?
Alors, justement, c'est au choix du joueur. Par exemple, il peut décider de tomber le masque pour retrouver en fait une identité privée
D'accord, donc
dans
je
le
peux faire
cadre de sa
contrer à
famille.
la Spider-Man.
Voilà, tu peux avoir une identité secrète comme un super-héros classique, ou alors finalement tu peux considérer que tu es le super-héros à 100%.
D'accord.
Et dans ce cas, tu portes ton masque tout le temps.
Ouais.
Mais ça pose pas
Et
plus de problème que ça en
quand tu
fait.
mets. Oui, alors, ça me rappelle un petit peu le
Tu
dialogue.
permets,
Oui, je t'en prie, dis-moi.
je termine.
Vas-y.
Donc j'étais dans les matchs à stipulation dans lesquels on parie des choses. Et dont le fait que tu puisses parier ton masque. Et par exemple, si tu luttes contre un ennemi, il peut imposer un match à stipulation. Et en gros, mettons, soit il est détruit, soit tu perds ton masque mystique de super-héros. Et là, c'est très grave puisque le personnage est perdu en fait.
C'est comme quand tu fais un duel, c'est le type d'en face qui va choisir les armes et c'est pas forcément à ton avantage.
Non, en fait, ça dépend de la puissance des monstres, en quelque sorte, qui peuvent t'imposer ou non des conditions particulières. Bon, je vais passer à la création de perso. En fait, quand tu crées ton perso, d'abord, tu commences par choisir ta catégorie de poids. Donc, poids léger, poids moyen, poids lourd. Ton niveau d'expérience, donc savoir si t'es un jeune débutant dans la lucha libre ou alors si tu es un vieux routard, tout ça. Ce niveau d'expérience, en fait, ça te donne un certain nombre de D6 et tu vas répartir ces D6 dans des caractéristiques. Donc, ces caractéristiques sont Rudo, High Fly, Technico, Hardcore, Dirty et Showman. Déjà, rien qu'en les prononçant, on a l'impression que c'est un jeu vidéo où tu, vas,
oui.
où tu entends...
Que c'est
les...
un mode dans le jeu de vidéo Hack and Slash que tu dois jouer.
Ou dans un Street Fighter, un truc comme oui. ça. Et donc, Rudo, ça représente la force brute, savoir si tu as des gros muscles énormes et tout. Savoir si tu es vraiment une bête, quoi. High Fly, c'est l'agilité, la capacité à faire des sauts et de la voltige, faire des bonds partout, comme justement l'un des persos de Street Fighter 4. Technico, qui est donc la dextérité et les connaissances techniques qui te permettent de faire des trucs compliqués. Hardcore, qui est l'endurance, la constitution du perso, c'est-à-dire combien de temps il va pouvoir lutter avant de
s'aider. Tu peux pas revenir à la sauvegarde, il faut que tu combattes jusqu'au bout.
Voilà. Il y a également le Dirty, c'est-à-dire c'est à la fois ta ruse, ta perception, ton aptitude à tricher pendant le match. C'est-à-dire, c'est en gros, personne ne peut tricher normalement, sauf ceux qui ont des points mis en dirty pour faire ça. Par exemple, l'arbitre regarde ailleurs et il y en a un qui sort du ring, qui prend une chaise dans le public, qui revient, qui en donne un coup sur la gueule à son adversaire et qui rejette la chaise avant que l'arbitre ait vu. Ça arrive dans les matchs de catch, ça. T'as jamais vu ce genre d'autre ?
J'ai vu des matchs de catch et j'ai pas encore percé le secret de la façon dont se décidaient les combats.
Et enfin, la dernière caractéristique, c'est Showman. C'est à la fois ton charisme et ton style. Donc, savoir si tu vas avoir des fans et des groupies qui vont t'acclamer quand tu rentres sur le ring et qui te donnent également des points pour faire je sais plus quoi, pour faire des finishes ou des trucs comme ça. Également, il y a l'alignement. Qui en fait qui est défini par rapport à tes autres caracs. Soit tu es plutôt un gros brutal, soit tu es plutôt un technique gentil. En gros
comme dans les matchs de catch, effectivement il y a bien les gentils et les méchants.
Ouais. Et là, en fait selon ton alignement tu es technico ou rudo.
Même les gentils et les méchants, même les méchants sont contre en fait les créatures.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais ça donne une interprétation qui est complètement différente. Il y en a certains, c'est des espèces de... C'est l'ange blanc et tous les trucs comme ça. Un peu... le côté un peu chevaleresque. Et de l'autre côté, t'as juste des grosses brutes épaisses qui ont la rage. C'est ce qui leur permet de vaincre. Mais c'est pas des types sympas pour autant. Ouais, donc du coup, oui. ça apporte des nuances de jeu.
Est-ce que, parce que tu parles de type pas sympa, est-ce que le catch, je crois que le public du catch, c'est des garçons assez jeunes qui se prennent aux tripes. Et je me demandais si ça se retrouvait dans le jeu ou si c'était vraiment un délire d'adulte. Est-ce que c'est on reprend le catch mexicain et on fait des trucs pour nous, mais... Ou alors, est-ce qu'on se met dans l'optique de des commentateurs de catch qui s'adressent à un public qui est très jeune en fait.
Non, c'est un truc adulte.
D'accord.
Non, mais d'ailleurs, j'ignorais que c'était...
Ah ouais, si, je crois que... l'audience,
bon
hein.
Ensuite,
il y a peut-être une... Comment dire, il y a peut-être le cœur de l'audience qui est plus adulte, j'en sais rien, mais la vaste majorité des gens qui regardent les matchs de catch, il me semble, c'est des jeunes garçons.
D'accord, en fait c'est un peu finalement le même public.
Alors, nous en sommes une petite phase de réglage technique. Veuillez nous excuser si.
Non, c'est bon.
Si on ralentit.
Oui, alors attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire ?
Tu disais. Tu parlais des gentils et des méchants. Enfin, que tu pouvais te choisir un des deux.
Oui, voilà. Alors, donc, aussi, pour typer son personnage, il y a un truc, donc, il y a le gimmick, qui est un trait de caractère, qui est représenté par un animal, et donc, qui sert à l'interprétation du perso. Et celui-ci aussi, évidemment, dépend de l'alignement que tu as déterminé avant. Donc, si tu es rudo ou technico, et les animaux ne sont pas les mêmes, et ça ne donne pas des capacités identiques. Il y a également l'ascendant et le point faible, donc soit il y a des créatures contre lesquelles tu es plus fort et d'autres contre lesquelles tu es plus faible.
Logique.
Et Et donc de déterminer ça, finalement, ça te permet de détailler peut-être un peu l'histoire de ton perso ou des trucs comme ça.
Je pense que les problèmes techniques, avant, ça devait être la pub Ustream, à mon avis.
Non, non, pas du tout.
Pas du tout. J'essaie de piquer.
Donc les ensuite les quand on crée son perso, on choisit des manœuvres, donc toutes les tous les types de prises qui peuvent être enchaînées et donc qui constituent des espèces de briques que tu empiles pour construire une séquence de coups. C'est-à-dire, par exemple, pour balancer un mec, d'abord tu dois le choper, après tu dois le soulever, après tu dois le lancer. En
Et
gros.
il y a qu'une seule manière de finir par balancer le mec ou tu peux il y a
Non,
plusieurs
non,
moyens
il y
d'arriver à
a
ça.
plein de variantes, mais c'est juste que
D'accord.
je te donne un exemple type de construction, en fait, de construction de coups. Et
D'accord.
il y a vraiment des tonnes de trucs qui constituent là aussi une bonne partie du bouquin et qui sont des classiques de la lucha libre, je pense. Y a des, enfin, j'ai vu des trucs de catch, on va dire classique. Le coup de la corde à linge. Tu sais, c'est quand le type tend le bras et il y en a l'autre qui court et il se prend la tête et il se prend la tête dedans. Je sais pas si t'as déjà vu
Voilà,
ça.
certainement, parce que j'en ai quand
Ou
même
des
vu
gens
un
qui
peu,
sautent
mais.
depuis le haut des cordes
Oui,
ou
ça c'est plus clair dans ma
voilà.
tête.
Voilà. Donc il y a plein de figures comme ça et qui
Mais
sont.
alors, est-ce que le côté chiqué du catch est simulé aussi?
Ah non, 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 pas du
Non,
tout.
c'est du catch sérieux.
Oui. En fait, c'est du catch rêvé finalement.
Oui. Bah, c'est du catch pour garçon de 10 à 12 ans, je dis. C'est ça,
Oui, voilà,
quelque
c'est
part.
ceux qui voient pas ce qui se passe dans les coulisses. Donc, on choisit des manœuvres, après des spécialités. On choisit le finisher, donc qui est un coup spécial, le truc du PG qui permet d'anéantir un ennemi d'un coup. Et donc, en dépensant des points et tout. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est combat. Sinon, il y a la vocation qui détermine en gros les capacités hors combat du PJ. Donc, en gros, son métier d'avant, si tu veux. Qu'il ait été dentiste ou bibliothécaire ou.
Tard
ou comptable.
D'accord, donc il y a beaucoup de grosses têtes parmi les catcheurs.
Pas forcément.
D'accord.
Mais c'est toi vraiment qui le choisis. Que voilà. Ensuite, oui quoi?
Juste, tu vas parler ou pas des aventures qu'on joue ensuite?
Un
Ou
peu,
c'est... Ouais,
un
d'accord.
peu. Maintenant qu'on a le perso qui est fait, le système de résolution est le suivant. Tu lances autant de dés que ta carac ou que la manœuvre associée. Et en fait, tu dois compter le nombre de dés identiques. D'accord? Et plus tu as de dés identiques, plus c'est le nombre de succès que tu as fait. Par exemple, si tu as 3, 2, 1, 3, 1, 5, avec
Donc
des
tu
dés
as un
6 hein, tout le
succès.
temps, non,
Non, tu
si
as...
tu comptes les deux, eh ben, tu en as 3.
Oui, pardon, tu as
Ok?
trois succès. D'accord,
D'accord.
ok, oui.
Mais simplement, après, si tu le compares en fait au jet d'opposition, si tu luttes contre quelqu'un, et si lui...
À 3-5, ça vaut plus que 3-2. Non.
Si, non, non, il a 3 réussites. Il faut qu'il ait 3 réussites aussi pour te battre.
D'accord.
Et après, il y a le chiffre. Le chiffre lui-même ne compte qu'après.
Oui,
Pour
c'est
connaître la
l'élément
puissance du
pour
coup.
départager.
C'est pour connaître la puissance du coup.
D'accord.
Voilà. Donc tu peux avoir, si tu as 1, 3, 3, 2, 4, donc ça te fait 2, 3. Donc ça fait 2 réussites, puissance 3. Ok?
Ouais.
D'accord. Donc voilà, voilà en gros comment ça marche. Pour les ennemis, il y a un truc qui est rigolo, c'est que donc soit tu peux les tuer simplement comme ça quoi. Tu vas jusqu'au bout de leur point de vie, enfin, bref, de leur constitution. Soit tu peux les immobiliser ou leur faire une prise spéciale pour choper le cristaux qu'ils ont sur eux. Car tous les ennemis ont un cristal implanté en eux, d'une couleur différente selon leur type.
Ouais.
Genre, je sais pas moi, les créatures des abysses, je crois que c'est des cristaux rouges. Et si tu chopes le cristal rouge de ton ennemi, il meurt aussitôt. Et en gros, il tombe comme une flaque. Tu sais, il se fait pout,
À la
il se
envahisseur.
désagrège. Et donc tu te retrouves avec ce cristal qui après peut être utilisé.
Pour acquérir des dons ou des machins comme ça ou...
En fait, non, ça t'apporte des effets supplémentaires que tu peux utiliser, genre le cristal rouge, ça fait comme une grenade.
Ah oui.
Donc tu as plein d'effets différents qui sont en fonction
Donc
du type de perso.
pour pouvoir vaincre un boss de fin de niveau, il va falloir se taper tous les monstres pour avoir des grenades, ce genre de choses.
Ben non, pas forcément. C'est juste des trucs en plus, si tu veux. Ça joue pas sur ce que ton perso peut faire en vrai.
D'accord, mais dans la logique quand même, vaincre des ennemis faibles permet d'accumuler de la puissance pour buter un ennemi fort. Non, c'est pas, c'était pas
Bah,
ça l'idée,
pas
d'accord.
forcément, enfin, je... Ouais, non. Ah, tiens, y a un truc que j'ai oublié complètement. Les personnages, ils ont tous un truc spécial. C'est une espèce de montre-téléphone. Et donc, ils peuvent faire comme s'ils appelaient Kit. Tu sais, la
Kit.
voiture... Mais oui, c'est la voiture dans 4000. Si, ils l'appellent avec
Ah,
sa montre.
d'accord, oui.
Et donc, en fait, ils peuvent s'appeler entre eux grâce à cette montre. Et
Y
c'est...
compris durant un match. Viens m'aider contre le
Je pense
méchant
que
nul.
c'est plutôt fait pour les aventures. Et en plus, je trouve que c'est un gadget qui est vachement sympa parce que ça permet toujours de contacter les autres joueurs même s'ils jouent pas
Ah oui, il n'y a
dans
pas
la même
le
pièce.
côté ah vous ne pouvez pas
Vous ne pouvez
oui,
pas le savoir, machin.
mais
Vous ne pouvez pas aider vos amis ou...
déjà que c'est suffisamment combien il y a déjà suffisamment de fois où les joueurs ne veulent pas de partager des informations pour non plus en rajouter en disant ah bah, tu peux pas parce
Ouais.
que oui.
Bon, cela dit, le système est un petit peu tempéré dans le sens où tu as en gros une chance sur 6 que le message soit brouillé, c'est-à-dire que ça passe pas bien.
Et tu joues avant et après tu es forcé de dire un message faux, c'est ça?
Il y a soit tu comprends rien, soit tu comprends un message faux. Donc, mais c'est pas tout le temps non plus. Mais
Étrange cette mécanique. Enfin, je sais pas comment
ça
ça
arrive.
se
Et en plus, chacune
concrétise.
de ces montres peut être tunée pour avoir des objets en plus, genre avoir un grappin, un truc qui lance des fléchettes empoisonnées, ou je
Un
sais pas.
peu
Enfin...
comme le livre de Sophie dans Inspecteur Gadget. C'est un livre qui fait plein de choses.
Ah, d'accord, bon.
Tu connais pas Inspecteur Gadget?
Si, mais le détail que tu cites, je me souviens plus.
Et Sophie, tu te souviens bien de Sophie, la fille de
Oui,
l'inspecteur Gadget?
celle
Ben
qui
elle
avait
a
le
un
chien
livre,
et
elle a
tout.
un livre électronique.
D'accord. Oui, un ordi savant. Alors, sur les scénarios maintenant, comme ce que tu disais tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de les lire.
D'accord.
Mais
C'est vrai que c'est
ce.
un gros jeu, je sais pas si tu l'as
Oui,
dit, mais ça fait quand
c'est un.
même
Oui, je l'ai dit tout au début. Plus de
308
300
pages.
pages, ouais. C'est un jeu énorme. Tu as une mini-campagne dedans, je crois, qui doit faire 3 scénarios. Et en fait, tu peux complètement faire des scénarios d'enquête ou de trucs comme ça, mais au final, c'est fait pourquoi? C'est fait pour arriver à la chouette baston de fin de scénar qui va te permettre de faire évoluer ton personnage et de faire augmenter sa notoriété. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé le jeu. Je le trouve vraiment chouette. Il y a énormément de contenu. C'est très.
Sûr, par rapport à Lacuna, là, tu dois pas trop te poser de questions sur la façon de représenter les îles, voilà, les décors et tout. Je
Oui,
vois qu'il y a
il y
un
a.
encart central avec tout en couleur, avec de magnifiques cartes.
Oui, il y a une très jolie carte à la fois de l'archipel et de l'île principale, donc Puerto Dragon. Il y a énormément de choses à exploiter. Donc si
Tu as eu
vous
des
aimez,
idées de scénario en
en
lisant?
fait, hein?
Tu as eu des idées d'aventure et de personnages en
Bah, en
lisant?
fait, c'est moi, ça m'a surtout donné des idées d'ambiance, en fait. Ces îles
D'accord.
avec le côté mexicain, l'architecture coloniale, les pots avec les cactus, les chairons, les barrios,
Je ne sais pas si c'est exactement la même ambiance, mais j'ai vu récemment des films philippins avec
Des naines.
Non, mais des religieuses qui se font violer dans des bordels et il y en a une qui réussit à s'échapper, à survivre, mais elle est complètement frappée et elle se met à massacrer tout le monde à coups de...
Mais c'est vraiment
Oui?
Ah, oh, sympa.
Alors, attends, c'était quoi déjà? C'était Nude Nuns with Guns, donc les nonnes à poil avec des flingues. Nude Nuns with Big Guns, je crois.
C'est du non-sploitation alors?
Oui, il y a de ça. Et puis il y en avait un autre, c'était. Bon, généralement, c'est très très glauque, quoi. C'est genre l'Église catholique mêlée au trafic de drogue, enfin, des trucs comme ça, avec des scènes horribles. Et puis à un moment, il y en a une qui est un peu frappadingue, qui échappe au massacre et qui revient comme un ange de la mort, quoi.
Et elle n'est pas contente.
Et elle n'est pas contente.
Et elle le fait savoir.
Elle le fait savoir à coup de fusil à pompe ou autre méthode.
Donc oui, voilà, j'ai fait le tour. Si tu as d'autres questions ou sinon on peut conclure. Ou sinon on passe à ton.
Et je pense que ce qui doit être intéressant, comme un peu dans beaucoup de jeux de super-héros, c'est la création du personnage avec son pouvoir. Donc, j'imagine chaque joueur doit vouloir cogiter sur la personnalité.
Oui, et puis
qui est excitant.
Il y a ça, et puis aussi comme dans Cops, il y a le fait que tu peux composer ton propre masque.
Ah oui, tu peux
ça,
dessiner
c'est
ton masque.
Ça, c'est côté artistique.
Il y a des indications qui sont données. Dans Pan Dragon, l'héraldique, il y a toute une. Il y a un chapitre, c'est bien expliqué.
Ouais.
Est-ce que c'est la même chose ? Les codes sont expliqués ou...
Oui. En fait, lorsque tu choisis ton gimmick, donc ce qui finalement ton trait de caractère mêlé à l'orientation de ton personnage, en fait, sont suggérés des représentations sur le masque et également des noms de personnages, de façon à ce que ça ait de la gueule, quoi.
D'accord.
Et il y a plein de noms, il y a plein de noms très rigolos, des trucs en espagnol ou des...
Ah oui, c'est un jeu, il faut connaître l'espagnol peut-être.
Ben voilà.
Luchadores. Alors, j'ai juste une dernière question, mais
oui.
Luchadores, littéralement en espagnol, ça veut dire quoi ?
J'en sais rien du tout, parce que moi j'ai fait allemand.
Ok, alors question surprise pour nos interlocuteurs sur le chat, c'est-à-dire quoi Luchadores en espagnol ? Et en plus, vous avez Google pour vous aider.
Ah, il faut montrer la couve. Je sais pas si on l'a montré, la couve.
Je crois que je l'ai montré, mais pas assez. Fighters, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Debout. Donc, Luchadores, bon, en gros, c'est les combattants. Quoi.
Ah oui.
Guerrier.
D'accord.
Guerrier ou combattant, je sais pas.
Les combattants. Ouais, c'est bien ça, les combattants.
Ok, bah merci beaucoup, Cobal, de ce bouquin français.
Oui.
Enfin, ce jeu de rôle français.
Français, monsieur.
Ah, oui, français, monsieur. Je tiens à le préciser, Lacuna, c'est une traduction, immérite, bien sûr, mais une traduction quand même. Luchadores, c'est du pur jus.
Et c'est, ça doit être le premier ouvrage du Pulp Fever Edition.
À qui nous souhaitons une longue et heureuse,
heureuse
carrière. Nous espérons que ça va bien marcher et que le jeu trouvera son public. Et si je parlais de bouquins ?
Ah oui, vas-y, dis-nous, parle-nous de livres.
Donc, comme tout le monde, je lis des bouquins de temps en temps, et enfin des bouquins qui ne sont pas des bouquins de jeux de rôle. Et j'ai récemment, enfin ces dernières semaines, derniers mois, j'ai lu plusieurs bouquins qui ont un petit rapport avec notre belle industrie, beau marché du jeu de rôle. Et du coup, j'ai lu des bouquins que j'ai trouvé très intéressants et qui, je pense, intéresseront les rôlistes. Je vais parler de trois romans. Alors, par lequel je commence ? Je vais commencer par parler de Vasbourg, allez, parce que c'est quand même mon coup de cœur parmi les trois bouquins. Je pense que c'est le plus intéressant, c'est celui que je conseille le plus fort. Donc, Vasbourg, c'est un roman de Cédric Ferrand,
oui.
Qui est, que je connais pas à titre personnel. Je trouve que
qui est un de nos fervents auditeurs.
C'est tant mieux, et qui écrit des choses très intéressantes. À la fois dans ses livres et sur son blog.
Ça fait du bruit dans les micros.
Puisqu'il a un blog, il me faudrait un badge. Un truc du style. Quoi.
Je suis t'es con.
j'ai un badge, t'es con. Cédric Ferrand en fait a un blog avec Philippe Fesneau que moi à titre personnel, j'ai déjà rencontré,
oui.
Que je connais un peu mieux. C'est un blog de littérature. Littérature, ou en tout cas de critique littéraire,
oui.
Voilà, donc il s'appelle
Huguin et Munin.
Huguin et Munin.
Qui sont les deux corbeaux de Dodin.
Dodin, oui, le dieu borgne. Alors, donc Vasbourg, qui est devant la petite caméra, Vasbourg est un roman qui se déroule dans un univers médiéval fantastique qui fait furieusement penser à une version alternative d'Amsterdam peut-être ou de Bruxelles qui se trouverait à côté de la mer, et où coexisteraient deux ethnies, une ethnie plutôt flamande, néerlandophone ou quelque chose comme ça, et une ethnie plutôt voilà, francophone ou nordique ou lilloise ou quelque chose comme ça. C'est un donc Cédric Ferrand est un rôliste, et à partir de ce roman qui a un vrai succès, il a prévu de créer un jeu de rôle prochainement. Donc c'est une bonne occasion d'en parler, ou en tout cas de le mentionner à nouveau, puisqu'on en avait vu déjà en parler. Vasbourg, c'est un roman qui a un parti pris un peu unique, parce qu'il il met en avant les petites gens, c'est-à-dire
les couches populaires de la population.
les gardes qui se font chier sur les murailles ou dans les patrouilles, et qui sont d'habitude les PNJ de prédilection que doivent affronter les joueurs qui font des conneries dans les tavernes.
Ceux qui se font dépecer à la première scène et qui n'ont même pas de nom en général.
Voilà, c'est pas des fortiches, c'est pas des héros, mais en prenant à chaque chapitre un nouveau personnage comme un nouveau membre de la garde comme narrateur, Cédric nous permet de découvrir un monde assez riche en fait, et puis de nous permet de découvrir ce qui se trame vraiment un petit peu dans cette cité de Vasbourg. Voilà. Bon, je vais pas trop en parler. Moi, j'ai dévoré ce bouquin parce que j'ai lu, donc je l'ai dit, pas mal de bouquins récemment, et c'est un de ceux que j'ai lu le plus rapidement parce que j'ai vraiment apprécié le style. C'est facile à lire, mais en même temps, il y a un effort vraiment très sympathique qui a été fait pour donner un caractère à la langue, qui notamment inclut des morceaux d'argot et puis de dialecte un peu. Alors il y a deux ethnies, je vous l'avais dit, donc il y a les Loritains et puis les j'ai un trou pour la deuxième ethnie, mais les Loritains, ça va être les Nordiques, les francophones entre guillemets, hein, parce qu'encore une fois c'est juste l'idée que ça évoque. Et puis l'autre ethnie va être plus flamande. C'est l'autre ethnie qui tient un peu les rênes du pouvoir, et il y a des sortes de luttes ethniques qui se déroulent. Les gardes sont un peu au milieu de tout ça. Ils sont aussi impliqués dans le maintien du pouvoir. Donc on a une perspective sur le bourgmestre, celui qui règne sur la ville, en l'absence des mages qui auparavant régnaient quelque part sur la ville, mais dont le... Que la magie a déserté, en fait.
Oui, la magie a disparu dans cet univers, et il n'en reste vraiment que des bribes. Et donc, les magiciens ont perdu tout pouvoir du jour au lendemain. Donc, ça s'est délité au fur et à mesure, jusqu'à ce que cela semble avoir complètement disparu. Donc, bien évidemment, ceux qui n'ont pas encore lu le roman, je vous invite à le faire, parce qu'il se passe des choses que nous ne pouvons pas raconter. Mais le jeu de rôle commencera à la toute fin du roman, c'est-à-dire lorsque finalement la situation a changé pour de bon et va permettre au personnage de finalement peut-être s'imposer dans cet ordre nouveau.
C'est très intéressant parce que ça fait penser à des jeux comme Dark Earth où tu as une évolution vraiment du monde entre... c'est du vrai transmédia, hein. Enfin, c'est-à-dire où chaque médium apporte sa touche personnelle, et c'est pas à chaque fois, ça reproduit pas forcément le jeu de rôle, c'est pas la reproduction du roman, mais ça fait suite, et donc c'est comme un long voyage auquel on est invité, et puis bon, on va en écrire une partie avec le jeu de rôle quand ça sortira, je ne sais pas quand, mais voilà, donc on fait confiance à Cédric, il a vraiment écrit un très très beau roman, donc je vous conseille vivement de vous y intéresser. Ça coûte 26 €, c'est dans la collection de la Bibliothèque Voltaïque, mais c'est pas comme ça que vous le trouverez. Essayez plutôt les Moutons Électriques éditeurs. Donc c'est un...
Oui, la collection Voltaïque, machin, tout ça, c'est juste une gamme chez cet éditeur.
Oui. Donc vous pouvez le trouver sur le site de l'éditeur, les Moutons Électriques, encore une fois. Assez dit pour Vasbourg, de toute façon on en reparlera parce qu'on a confiance en la parution future d'un jeu de rôle sur ce thème, et on en parlera avec beaucoup de plaisir, on espère qu'on pourra y jouer. Maintenant, je vais parler de... Allez, je vais parler de Demi-Monde. Demi-Monde, c'est un roman qui n'est pas nouveau, contrairement à Vesbourg, qui date d'il y a... Quoi, un an, six mois ?
Il a... Oui.
Même moins, peut-être.
Ouais, disons six mois, ouais, pour Vesbourg.
Six mois. Demi-Monde, c'est un roman qui date de 2008, si je dis pas de bêtises. Hop. Et bien sûr, c'est pas marqué. C'est le problème de ces romans auto-édités, c'est que parfois, il n'y a pas... Il n'y a pas toutes les infos qu'on trouve d'habitude. Copyright 2005-2008, Justin Achille. Alors, Justin Achille, c'est une des figures, en fait, un des personnages clés de la saga Vampire la Mascarade. C'est lui l'éditeur, le responsable de gamme historique qui... Enfin, ça n'a pas été le premier, il est arrivé chez White Wolf, qui existait déjà, hein. Il s'occupait, je crois, du jeu de cartes à collectionner Rage, si je me souviens bien. Et puis ensuite, il est devenu responsable de gamme sur Vampire, et je pense qu'il a été vraiment un excellent responsable de gamme sur ce jeu, parce qu'il a réussi à éviter les pièges qui auraient pu survenir, enfin certains des pièges, parce que Vampire a aussi eu pas mal de défauts, la gamme Vampire. Toujours est-il qu'il a écrit... c'est pas très joli ce que tu viens de faire là. Bon. Il a écrit un roman donc, il y a donc, 4 ans, 3-4 ans, qui s'appelle Demi-Monde, et que j'ai lu par intérêt parce que je suis son blog de manière régulière, et souvent c'est très intéressant si vous êtes intéressé au game design. J'ai dit, oui, c'est peut-être le principal intérêt. Si vous intéressez au game design, allez regarder de temps en temps le blog de Justin Achille. Il a travaillé non pas seulement sur Vampire, mais il a fait aussi un parcours personnel. Notamment, il a travaillé à Ubisoft un petit peu sur le jeu où on saute sur le toit, là. Comment ça s'appelle ?
Le jeu Mirror's Edge ?
Non.
Assassin's Creed.
Ouais, Assassin's Creed. Pfiouh, merci. Et puis, donc il a fait un petit passage en France, et puis il est reparti. Et là, il s'occupe de la 20e édition, l'édition anniversaire de Vampire, la gamme qui continue. Je vous en avais déjà parlé dans ce podcast, et ça continue. Et là, il s'occupe d'un supplément qui s'appelle Children of the Revolution, qui est un nouveau supplément pour Vampire la Mascarade, donc qui proposera du contenu nouveau, mais avec la participation des joueurs, en fait, qui contribueront avec leurs idées. Donc, j'étais très intéressé à un certain moment par le blog de Justin, et j'ai aussi beaucoup aimé les passages de ses textes dans les clan novels. En fait, c'est une saga de 13 romans. Un pour chaque clan, qui est sorti il y a une dizaine d'années.
Même.
Oh, ouais, une bonne dizaine d'années, je pense, au moins. Qui décrivait toute une histoire autour d'un artefact qui s'appelait l'œil d'Azimel, un truc comme ça. Et lui, Justin Achille, de la même manière qu'il avait rédigé le Clan Book, le livre de clan de Giovanni, il a écrit le roman sur les Giovanni. Il a un style particulier que j'aime beaucoup, qui est assez, qui me fait penser un peu à Pulp Fiction. À Quentin Tarantino, un peu de vulgarité, des personnages très terre à terre, mais auxquels on s'attache très facilement parce que bon, il y a un certain bagou, un certain réparti et un univers qui se dégage peut-être plus facilement que chez certains autres auteurs qui par ailleurs peuvent être bons aussi, mais sont moins distincts. Disons que pour abréger, parce que je ne veux pas non plus faire trop long, quand je lisais cette saga, les clan novels, les romans de clan, j'ai lu, en fait, j'ai pas lu les romans à un, sauf au tout début, j'ai lu un des romans, mais j'ai lu la version où, en fait, ils avaient regroupé tout par ordre chronologique.
Ouais.
Ce qui était une œuvre titanesque, parce que 13 romans, enfin bref, ils en avaient fait 4 tomes gigantesques.
Ouais.
Et tous les trois pages, ça changeait d'auteur, en fait.
Oh là là, quelle horreur.
Et ben, Justin Achille, c'était le type où je pouvais reconnaître, sans regarder le nom,
son style,
son style, et j'appréciais ça, et je trouvais ça...
Ouais, mais tu l'appréciais pour 3 pages, toutes les 20 pages.
quelle horreur. C'est un peu limitatif de dire ça, mais oui, en gros, c'était l'idée. Toujours est-il que j'ai voulu retrouver cette sensation, ce style, ouais. ce plaisir donc, en achetant Demi-Onde, donc, qui était, je crois que j'ai dû le trouver sur, sur Amazon.
On s'en fout.
Et je l'ai retrouvé, effectivement. Alors, vite fait, parce que je pense que je passe un peu trop de temps là-dessus. Demi-Monde, c'est un roman qui décrit un type qui découvre qu'il est quelque part, pas invisible, mais il peut se rendre transparent quoi, pour les gens. Comme si les gens ne le voyaient pas. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut entrer dans un magasin, prendre quelque chose et ressortir. Les gens ne le remarqueront pas vraiment. C'est comme s'il était négligeable. Enfin, voilà. Et il se rend compte qu'il y a toute une société qui, de gens comme lui et qui ont créé leurs propres règles, leurs propres factions. Donc il entre dans ce monde-là. Et le type est très... c'est un fêtard. Il est presque nihiliste quelque part. Enfin, il passe son temps à se droguer, à boire, à baiser. C'est un personnage de la nuit, quoi. Enfin, il est... Voilà.
D'accord.
Et donc, j'ai posé quelques questions à Justin Kelly à cette occasion. Donc vous pouvez le trouver sur mon blog, d'ailleurs.
En français ?
On mettra le lien. Non, désolé, j'ai laissé en anglais, excuse-moi.
Ah bah non, alors. Ah bah, ouais.
Et ce qui m'a intéressé, c'est le fait de découvrir que... Enfin, j'avais pas la même perception, en fait, de l'histoire que Justin... Et en posant la question, j'ai découvert que pour lui, en fait, la religion, c'était quelque chose de naturel. Même, en fait, cet aspect religieux est très important dans le bouquin, parce que c'est ça qui détermine les factions, en fait. Et que même les êtres surnaturels ont besoin de croire à quelque chose. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. On peut le voir aussi dans les différentes éditions de Vampire, avec les différentes croyances. Quand il n'y a pas une vérité unique qui vient de,
établi,
du
tout
fond
ça.
Du passé, avec... comme dans les Donjons et Dragons où les infos sont là, hein, tel dieu a créé le monde, tel truc et de ça. Quand il y a plusieurs systèmes de croyances qui peuvent se combattre, ça rajoute au côté un peu fantastique, pas fantastique, c'est pas le bon mot, mais un peu à l'incertitude qui baigne l'univers.
D'accord.
Dans la dernière édition de Vampire, l'avant-dernière, donc dans l'édition de Vampire Requiem, il y a notamment les grandes factions des vampires sont des factions religieuses, surtout.
Ah, d'accord.
Ouais, il y a le côté un peu New Age, le côté Vika plutôt.
Oui, il y a le côté proche de la nature, tout ça.
C'est païen.
Païen. Ouais.
Il y a le côté catholique.
Ouais.
L'Anca Sanctum. Il y a des factions comme ça. C'est des factions très...
intéressant. Finalement, c'est un espèce de mouvement de mouvement intellectuel qui se projette dans la situation d'un espèce de surhomme pour savoir ce à quoi il pourrait bien croire.
Oui, c'est ça, oui, complètement. Et c'est un peu le même topo dans Demi-Onde, sauf que il y a pas tellement de détails sur les croyances exactes. Il laisse beaucoup de choses dans le flou,
ouais.
Donc on peut le regretter ou l'apprécier. Il fournit ses raisons dans l'interview. En gros, il dit que c'est une technique pour ajouter un sens de... Enfin, il faut que l'esprit du lecteur remplisse les blancs. C'est son explication, quoi. Il veut laisser de la place à l'imagination.
Mm-hmm.
C'est technique. En même temps, on est un peu sur notre fin. Moi, petit personnel, j'aurais aimé en savoir plus. C'était peut-être pas le lieu pour ça, le roman. Et juste pour conclure, j'ai retrouvé en fouillant dans mon disque dur une interview faite il y a une dizaine d'années, encore une fois, dans Backstab.
Mm-hmm.
C'est un peu moins de 10 ans. 8-9 ans dans ces eaux-là, où j'interview Justin Achille au moment où c'est vraiment la gamme Vampire est sur sa fin.
D'accord.
Et ce qui est rigolo, c'est que je lui demande un peu pour rigoler au début, dis-moi quel est ton clan, donner sa fiche de personnage de vampire.
Mm-hmm.
Et il présente une version très. Mon clan, c'est alcoolo. Débauché, ma nature s'est débauchée, ce genre de choses. Et il faut savoir que Justin Achille, c'est le DJ de du Succubus Club, qui est le voilà le c'est le, ouais, le la marque, on va dire, des fêtes organisées par White Wolf. White Wolf, durant des années, a été connu pour être la société de jeux de rôle qui faisait les plus belles fêtes, enfin, les fêtes les plus sympas, les moins grand public, enfin les plus cool, vampires et tout, bref. Et je trouvais ça intéressant parce que dans le bouquin, c'est vraiment une épave, le type, et ça se finit mal, enfin il survit, mais enfin il fait des victimes, quoi. Et c'est pas volontaire. À la base, c'est un type bien, mais il y a le côté alcoolique, le monde de la nuit qui le prend et tout. Et je trouvais que c'était assez touchant, le parcours individuel que ça montrait, entre le décalage entre les deux interviews. L'interview où il jouait le personnage, quelque part, du DJ alcoolo. C'était un personnage, hein, on est d'accord. Et le roman où il met en avant la quête de spiritualité, et puis où il montre les conséquences d'une frénésie de consommation de drogue, d'alcool, d'un mode de vie qui a ses mérites et surtout ses défauts. Bon, et dernier point, mais j'arrête là-dessus parce que j'en ai déjà fait trop, mais c'est que quand on va sur son blog, son dernier post, c'est on le voit jouer à Pathfinder avec sa fille qui a 3 ans ou 4 ans. Et en contrepoint du roman, je trouve ça assez magnifique. Bon, c'est un parallèle entre fiction et vie réelle.
Et surtout, pas possible à 4 ans de comprendre les règles de Pathfinder.
Attention, toi, t'as quel âge et tu les comprends toujours pas. Alors, fais pas le malin, s'il te plaît. Mais,
non, mais c'est pas possible, en fait.
Non, mais bien sûr qu'il ne joue pas les règles complètes. En gros, il joue des règles simplifiées. C'est pas le but, c'est que chacun y joue en fonction de ses possibilités, et c'est ce qu'il fait là. Donc c'est très marrant, il y a une vidéo, tu peux la voir. Et enfin voilà, moi ça m'a touché, j'ai trouvé que le livre était intéressant. Est-ce que je le conseille? Oui, non, j'ai pris beaucoup plus de temps à le lire, mais c'est plus une question de est-ce que j'ai du temps dans le bus ou ce genre de choses. Mais c'est bon, si j'avais un livre à conseiller, ce serait vraiment sans rigoler, Wasburg. Demi-monde, c'est intéressant aussi. Ça peut être rigolo de découvrir une vision d'un type qui est un héros, mais enfin c'est le narrateur, mais c'est visiblement pas le héros, quoi. Enfin c'est
oui.
Et en même temps, à la base c'est pas un mauvais type, et puis il a ses accès de courage, mais il a tellement de défauts. Enfin c'est un personnage intéressant à voir, quoi.
D'accord. Très bien.
Dernier point.
Non, de Dieu.
Allez, je vais arrêter après. Mais c'est presque fini. Rappelle-moi ton accréditation, s'il te plaît, ton niveau d'accréditation.
Mauve.
Ah, ça n'existe pas. Désolé. Dans Paranoia, on est infrarouge, on est rouge, on est
ultraviolet.
Ah, ultraviolet. Bon, tu peux connaître alors. Je vais vous parler de Reality Optional. C'est un roman parmi trois, je crois, mais bientôt plus, qui constitue en fait des adaptations en roman du jeu de rôle Paranoia. Le jeu de rôle Paranoia de Greg Kostikian, si je me souviens bien, et je crois que c'est Eric Goldberg ou un truc du style, je sais plus, enfin il y a plusieurs auteurs, hein, c'est pas un seul auteur. Un des maîtres d'œuvre de la résurgence de Paranoia, on va dire, c'est Alan Varney. Donc, un des auteurs aussi historiques de Paranoia, bien que pas l'auteur initial. Et donc il chapeaute le lancement, si j'ai bien compris, hein, en tout cas il chapeaute le lancement d'une gamme de romans adaptés de cet univers, dont Reality Optional. Donc Alan Varney a écrit un autre roman. Moi j'ai lu un roman qui a été écrit par un certain Gareth Anthraton. Bon, c'est pas exactement ça, mais
Cthulhu, Lyle, Ftagne.
Donc sur Amazon, vous pourrez trouver en cherchant Reality, comme réalité, Optional, en anglais, comme optionnel.
Comme quelque chose d'optionnel.
Voilà. J'ai vraiment apprécié ce roman, qui m'a replongé dans de bons souvenirs. Je sais que Cédric Ferrand a lu un autre roman et a soulevé des critiques tout à fait valides. Il a retrouvé dans le roman comme un scénario joué de Paranoia, donc jeu de rôle dont j'ai parlé dans ce podcast auparavant, et qui est que je conseille une fois encore.
C'est souvent le problème, par exemple, des premiers romans de fantasy. mais pour Paranoia, ça se présente quand même moins, donc je sais pas ce que ça peut donner.
Alors, pour commencer, je suis d'accord avec Cédric dans le sens où, effectivement, c'est des scénarios des aventures de Paranoia. Il y a des clarificateurs, et puis ils se tirent entre eux, et puis ils sourient très fort pendant qu'ils racontent des conneries de propagande, tout en pensant exactement l'inverse. Mais ça fait, on n'avait jamais vu ça. Ça fait du bien de le lire. Moi, j'ai pas suivi l'intrigue. Je m'en suis un peu foutu d'ailleurs parce que c'est toujours emberlificoté avec tout le monde qui trahit tout le monde. Et puis il y a des conspirations ici, des conspirations là. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est les dialogues, la façon dont ils vivent au quotidien, le côté totalitaire. J'ai trouvé ça très très marrant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Reality Optional? Ah oui, ça m'a fait penser. En fait, récemment, il y a eu la mort là, du dictateur nord-coréen.
Oui.
Et on a tous vu les images des Nord-Coréens pleurant. Ça m'a... Quand j'ai lu ensuite, très peu de temps après, le roman Reality Optional, avec les discours hystériques sur vive l'ordinateur, etc., ça m'a fait penser à ça. Et
ah oui?
Ça m'a fait penser
à ça. Il y a ce genre d'ambiance dans les dans le
forcément. Ouais. On a pas, enfin, le bonheur est obligatoire, on n'a pas oui. le droit d'être malheureux. Oui. Si on est malheureux, c'est
qu'on est un traître,
une trahison. Oui, oui. C'est qu'on n'est pas content de la situation, mutant. Donc ça voudrait dire que l'ordinateur n'a pas bien fait son boulot. Et, bon, d'abord, c'est triste hein, parce que les Nord-Coréens, bon, on les oublie. C'est vrai que c'est anecdotique, on peut en rire, mais c'est un peuple finalement qui vit encore dans un monde à la paranoïa. Quand oui. on y pense, c'est assez spécial. Donc je vous conseille, si vous allez sur internet, regardez un documentaire sur la Corée du Nord, etc. Vous verrez. Enfin, du coup, je me suis intéressé à la question. C'est vraiment spécial et on n'a pas vraiment envie de vivre dans un monde à la paranoïa.
Ah, bah ça, c'est sûr, oui. Je sais pas si tu as déjà lu la BD de Guy Delisle hein, qui s'appelle Pyongyang.
Non.
Donc.
Delisle, c'est pas lui qui avait fait aussi Shenzhen? Non.
Hein? Si, Shenzhen. Oui, il a fait.
Oui, c'est lui sur Shenzhen. Oui. Mais il est aussi allé bosser à.
Il est allé bosser donc en Corée du Nord.
Tu l'as? Tu
me l'as ouais, si tu veux. Et c'est tu vois des trucs assez incroyables. Juste sur du quotidien,
oui.
en fait.
Oui, mais c'est vraiment, en plus, je pense, un pays qui se prête bien au manga, quoi. Parce que pour rendre des bizarretés pareilles...
Au manga. Pourquoi au manga?
Parce que... je pourrais pas te l'expliquer clairement, mais le manga exprime pas mal... Enfin, voilà. Parmi les mangas que j'ai lus qui m'ont marqué, il y a des trucs comme Monster et 20th Century Boys.
Oui.
Qui ont des... Qui, notamment 20th Century Boys qui montre très bien une dictature aussi, la dictature de l'ami,
oui.
Qui n'est pas un ordinateur, mais qui est un ami quand même, avec un grand A. Et ça montrait très bien ce genre d'ambiance. Mmh. Ça
inspirait
très
okay.
bien ce...
D'accord.
Alors, c'est peut-être un raccourci pour quelqu'un qui ne connaît pas si bien le manga que ça.
Arrête de taper sur cette putain de table.
Pardon, elle est fragile, c'est ça?
Non, mais c'est non, que ça résonne dans, oui, le métro, okay. dans le métro, dans le micro.
Reality Optional et deux autres romans pour Paranoia sont disponibles sur Amazon en format PDF et Kindle.
D'accord, donc voilà. E-book, quoi.
E-book.
D'accord.
Et je conseille au moins un, parce que pour lire, pour le plaisir, si vous pouvez, parce que c'est bon, d'abord, c'est pas très cher, c'est 4 euros, je crois, 3 euros. Et c'est... précision, j'ai reçu un exemplaire en téléchargement gratuit pour pouvoir le critiquer. Et c'est vraiment pas un roman que vous allez regarder pour son histoire, mais pour l'ambiance dans laquelle vous plongez. Et parfois, vous allez rigoler à cause des dialogues, qui sont assez savoureux quand même, les dialogues...
Des clarificateurs.
Oui, qui se disputent sur des questions de loyauté. Enfin, c'est assez savoureux.
D'accord. Ok.
Mais peut-être que l'intérêt part assez vite. Effectivement, je ne sais pas si au bout du deuxième ou du troisième roman, je me dirais pas bon, ok.
Ça commence à bien faire.
Peut-être que comme Cédric, je réclamerais des trucs un peu plus qui changent de perspective en fait, qui arrêtent avec les clarificateurs et qui fournissent une autre vision.
Une autre vision des choses. D'accord. Eh bien, voilà. Ma foi, merci. Cyril, on a terminé cette émission. Alors pour ce numéro anniversaire et tout, je vais quand même faire quelques petits remerciements qui s'imposent. D'une part, merci à ceux qui m'ont donné envie de faire du podcast et donc de faire celui-ci en particulier. Donc tous mes lancements d'émissions sont des copies exactes de celles faites par Patrick Béja dans Azeroth.fr, qui a été vraiment une grosse influence pour faire ça. Merci à Carmi qui a bidouillé la première version du site. Merci également à Seb Delfino qui a fait le nouveau logo qui tue de Radio Rollist. Hein, Cyril, qu'il tue le nouveau logo?
Oh oui!
Merci également à Bad Geek qui rediffuse notre podcast dans le cadre de sa plateforme. Et puis un grand coucou à tous les copains podcasteurs comme OneAPI qui en ce moment est à Angoulême en train d'user ses pieds entre des stands. Et bien sûr, il faut que je fasse des gros bisous à mon debout. Donc, qui est un petit peu mon intermédiaire technique à moi. Et surtout, merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés et supportés jusqu'à maintenant. Et puis, ben voilà. Et puis, j'espère qu'on fêtera le deuxième anniversaire.
et alors, moi, je ne peux pas réfléchir plus loin que le dernier repas. Donc, merci beaucoup à Cobal pour la tartiflette. C'était vraiment très, très bon. Et j'ai adoré.
Tu remarques qu'à chaque fois, dans toutes les émissions, tu ne sais jamais quoi dire à la fin. Jamais tu as trouvé quoi que ce soit.
Je suis sincère.
Bon, ben écoutez, merci à tous et puis eh bien au mois prochain. Allez, salut.
Salut.